Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. Tours, 31 octobre 2018. Les associations Utopia 56 et Chrétiens Migrants accompagnent depuis des mois des jeunes hommes à la rue qui se déclarent mineurs non accompagnés, ainsi que des familles. Ils ont de 2 mois à 78 ans. Il y a eu un premier campement à Tournord, le Bercail, puis à Saint-Pierre-des-Corps cet été, puis dans le jardin Teurier, quartier du Sanitas, en plein centre-ville de Tours. Ce soir-là, il fait froid, les tentes et les habits sont trempés par la pluie, et aucune solution d'hébergement sûr pour affronter l'hiver ne semble se profiler à l'horizon. Alors, associatifs, citoyens et sans-abri décident d'investir un bâtiment laissé à l'abandon.
On a des photos à l'intérieur. Mais les photos, c'est pas une preuve, monsieur, c'est de la loi. Moi, je vous dis, on a déjà eu un groupe qui disait, c'est pas une preuve, monsieur.
Et on a le président de la République avec nous qui dit qu'on ne doit pas avoir de gens dans la rue. Alors,
on est de la République en marche.
On est en marche. On est en marche.
Ça va les perturber.
C'est pas normal c'est pas normal de laisser des gens dormir dehors.
Alors, on est d'accord, on n'a pas besoin d'aller plus loin.
Des locaux.
On va le rendre ça.
Moi, je vous dis pourquoi. Moi, je vous dis sincèrement. Ça serait, je vous dis honnêtement, mettre des gens dans ces genre de locaux-là, désaffectés, je ne sais même pas s'il y a de l'amiante, je ne sais même pas ce qu'il y a, c'est pour ça que je ne le mettrais pas.
Vous ne sauriez pas comment on met l'eau ici ?
Il n'y a pas d'eau, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'eau,
vous
y a
pas tout, comment on peut l'ouvrir.
Tout est arraché, parce qu'il y a les manouches qui sont venues, ils ont volé tous les tuyaux de cuivre.
Moi, c'est pour ça que je... entends ce que vous dites, mais ces gens-là, avant, madame, dimanche, mais vous ne m'avez pas écouté,
oui.
Dimanche, oui. Vous avez vu le temps qu'il faisait ?
Oui.
Les gens là,
oui.
Ils étaient dans les
soins. Oui, j'ai lu l'article.
D'accord.
Sur l'INA.
Mais c'est pas en fait, vous habitez là, vous auriez pu aller là-bas plutôt que de lire. Ils étaient là-bas, vous
non.
auriez vu.
Excusez-moi, c'est facile de dire comme ça, oui, d'envoyer les gens chez les gens. Et pourquoi vous ne les amenez pas chez vous ?
Mais tu crois quoi ? On en héberge 35 des personnes.
Oui, c'est
35
très bien,
des personnes citoyennement. Aujourd'hui, on est sans solution et on est des citoyens qui n'acceptons pas de regarder la misère. Pas de jugement de valeur. Héberge qui veut, c'est pas à nous, c'est à l'État de le faire. C'est à l'État.
Vous me donnez.
C'est à l'État.
Vous travaillez, on respecte votre travail, vous appelez la police, nous on parlera à la police, c'est tout, il n'y a pas de problème.
On entend vraiment, mais
nous il n'y a pas de problème.
On est là,
on va pas être trop violent avec vous, on va pas être
trop violent. On est là depuis 48 ans,
c'est vrai.
Ça sert à rien de commencer,
les gens.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors là, nous sommes au Sanitas, précisément dans l'ancien bâtiment du Clous, et vous êtes venu ici en tant qu'habitant du quartier, c'est ça ?
Tout à fait, j'habite le quartier depuis 25 ans. Pour ma part, en 25 ans, je n'ai jamais vu une telle situation sur le quartier, jamais vu autant de personnes à la rue. Je suis vraiment révolté de voir que les pouvoirs publics ne prennent pas à cœur cette situation, qui me semble anormale en 2018 en France. Donc nous avons improvisé un petit collectif citoyen avec des habitants, des membres associatifs, d'autres collectifs. Nous avons décidé de nous substituer, d'aider Monsieur Macron à respecter ses engagements. Pour mémoire, il avait dit pendant sa campagne préélectorale que s'il était élu, il n'y aurait plus personne dehors. Un an et demi après, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, et là, les températures commencent à baisser, on arrive sur la trêve hivernale, et nous n'acceptons pas cette situation. Donc nous aidons M. Macron à respecter sa parole, tout simplement en réquisitionnant un bâtiment qui appartient à l'État.
Et alors comment ça se fait que ces jeunes gens et ces familles se sont retrouvés au Sanitas ? Parce qu'avant, ils étaient ailleurs, je crois.
Oui, alors moi j'ai suivi de très loin quand ils étaient ailleurs, puisque je suivais le site d'une association qui s'occupe des personnes migrants et plus spécifiquement des mineurs non accompagnés. Je suivais sur leur page Facebook, ils sont passés par le diocèse de Saint-Pierre-des-Corps, il me semble, qui a pris sa part de responsabilité, je pense, en les accueillant un mois ou deux. Ils sont passés par d'autres endroits dont je ne sais pas souvenir, plein d'endroits où il y a eu une prise de solidarité pour les accueillir quelques temps. Là, ils arrivent dans le quartier, je ne pourrais pas vous dire, je pense que c'est parce qu'il y avait les locaux de Chrétiens Migrants, ils sont venus se replier chez Chrétiens Migrants, qui ont vite été débordés par le nombre de personnes. Il y a à peu près 40 personnes qui vivent depuis le mois de mars ou avril dans le jardin Thorier, en plein milieu du Sanitas, au vu de tout le monde. Voilà, après j'en sais pas vraiment plus sur comment ils sont arrivés ici.
Et alors, puisque vous êtes habitant du quartier depuis plus de 20 ans, est-ce que vous voulez dire un mot sur comment cette présence, en fait, comment cette présence de ces jeunes gens était vécue ici par les habitants du quartier ?
Oui, alors, c'est comment elle est vue de mon point de vue. Je vois les gens qui passent devant ces personnes et qui ne savent pas quoi faire. Je passe, moi, une dizaine de fois par jour dans le cadre de mes activités pro et associatives. Voilà, les gens passent, ils regardent avec un sentiment de rien pouvoir faire. Mais par contre, ils sont prêts à venir aider quand un petit groupe de personnes commence à s'y atteler. Donc je pense que là, ce soir, on est une petite trentaine. Je pense que les gens vont venir se greffer à ça en apportant des un peu ce qu'ils peuvent, quoi, de la nourriture, peut-être des couvertures, des draps, des vieux matelas, ce genre de choses. Mais voilà, je pense qu'il est important qu'un petit groupe se mobilise en premier pour donner l'impulsion. Voilà, pour habiter le quartier, quand il y a une initiative qui est prise, il y a beaucoup de personnes qui suivent, mais il faut tout le temps qu'il y ait un petit groupe qui déclenche.
Voilà, donc en tout cas, les gens, si quelqu'un est mécontent, ce ne sera pas forcément les habitants du quartier.
Ah non, pas du tout, les habitants du quartier ne seront pas mécontents. D'ailleurs, comme partout, il y aura forcément des gens qui sont contre l'accueil de personnes de pays étrangers et puis surtout de pays en difficulté. Mais il y a une majorité ici sur le quartier du Sanitas de personnes tolérantes, et même plus que tolérantes, des personnes qui sont prêtes à aider mais qui n'en ont pas les moyens, tout simplement financièrement ou... Voilà, et puis il y a énormément de solidarité sur ce quartier. Et on a la chance quand même d'être situé en plein centre-ville. Voilà. Ce qui nous permet de pouvoir montrer ce qui se passe.
Et alors c'est le CLOUS, c'est un bâtiment qui appartient à l'université. Et là, quel est le risque ou la probabilité que la police ou quelqu'un qui vienne vous déloger ?
Alors, à mon sens, c'est un bâtiment qui appartient au département. On ne l'a pas choisi par hasard. On voulait surtout prendre un bâtiment, occuper un bâtiment en faveur des personnes à la rue qui relève de la responsabilité du réel responsable, pardon. Donc le département qui est en charge des mineurs non accompagnés. Donc on a cherché un petit peu dans le quartier un bâtiment qui appartenait au département. A priori, celui-ci appartiendrait au département. Il est désaffecté depuis 4 à 5 ans. Nous n'avons pas cassé de porte. La porte était ouverte par des précédents, peut-être, je sais pas, squatteurs ou personnes qui pratiquent l'urbex, comme ça se fait beaucoup dans le quartier, et souvent dans les bâtiments abandonnés. On a juste fait entrer les personnes, sans rien casser. Les risques, je pense... Donc moi, je ne vais pas parler de risques, en fait, je voudrais peut-être commencer par dire... ça va interpeller peut-être la mairie, déjà, dans un premier temps. Je sais bien que c'est pas la responsabilité de la mairie, les personnes à la rue, mais le fait qu'on soit le long de la ligne de tram, ça va peut-être interpeller la mairie dans un premier temps, le département par la suite. Nous, ce qu'on espère, c'est surtout, on va pas parler des risques, on parle pas du tout des risques. Ce qu'on espère, c'est vraiment qu'il y a un dialogue puisse s'établir entre le collectif présent ici et les autorités compétentes, donc c'est-à-dire le département, la région et l'État. Voilà, et Madame la préfète. Qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on puisse discuter avec eux et trouver une solution pérenne à ces gens.
Est-ce que vous avez tenté plusieurs fois de les contacter ?
Alors, je vais parler pour moi, puisque je ne fais pas partie d'une association du type Utopia 56 qui, eux, ont essayé, oui. Pour ma part, en tant que citoyen, j'ai essayé de contacter la préfecture. On m'a dit qu'il fallait faire partie d'une association pour pouvoir la joindre et puis discuter de ce sujet. Par contre, je trouve totalement mal poli que la préfète refuse de parler à un habitant. Voilà. Et je pense qu'Utopia 56 a déjà essayé de les interpeller à plusieurs reprises. Je pense que Chrétien Migrant l'a fait également à plusieurs reprises et qu'ils ont eu des réponses. Voilà, les services se renvoient la balle, la préfecture, le département. Voilà. Je pense qu'ils ont abandonné, en fait. Je pense qu'ils ont vraiment, c'est ça le mot, ils ont abandonné le dialogue et maintenant, on est dans l'action. Là, il doit être 22h15. À partir de minuit, on va profiter de la trêve hivernale pour empêcher l'expulsion. Donc voilà, il y aura quelques personnes Et les volontaires sont les bienvenus pour venir nous aider, pour faire un peu de surveillance autour de ces lieux afin que personne ne profite et abuse de la situation. Parce que voilà, ça serait pas. On les met à l'abri, c'est pas pour qu'ils se fassent malmener par la suite. Donc on va veiller à leur sécurité dans un premier temps. Les gens peuvent venir nous amener dès ce soir, de la nourriture. Je sais pas, on a besoin de plein de choses, du dentifrice, du savon, des shampoings, tout ce qui est de première nécessité, des vêtements, de l'eau parce qu'on n'a pas accès à l'eau. Si des personnes ont des lampes électriques avec des piles, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas accès à l'électricité encore. Tout ce qui est potentiellement utile à des personnes âgées de 18 mois à 78-80 ans, quoi. Voilà.
Alors juste une chose, parce que vous évoquiez qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent faire des choses ennuyeuses pour les jeunes gens que vous voulez, et autres d'ailleurs, que vous voulez mettre à l'abri. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu?
Alors, déjà, en premier lieu, on va dire, on se pose la question, enfin moi, personnellement, je me pose la question. On a ouvert le lieu il y a à peu près 2 heures. On n'a pas vu une voiture de police, ne serait-ce que pour venir s'informer de ce qui se passait. Ça m'inquiète un petit peu, ça, déjà. Pas que je serais content de les voir arriver, mais ce qui m'inquiète, c'est de pas les avoir vus. Parce que je me dis, du coup, si quelqu'un venait, un groupuscule, peu importe, qui vienne de nulle part, venait s'en prendre aux personnes qu'on a mis en sécurité, personne ne verrait. Vu qu'on est arrivé à peu près une cinquantaine et la police ne se déplace pas, bon. C'est la première inquiétude que j'ai, c'est que quelqu'un s'en prenne à eux physiquement, ça peut arriver. On sait très bien qu'en France, tout le monde n'est pas pour l'accueil des migrants. Voilà. C'est ma principale crainte, en tout cas, pour cette nuit. Since I'm stuck here, I guess I'll make it.
Et une dernière chose, est-ce qu'on peut s'informer? Ou est-ce que toi, tu as été trouver des informations sur cet événement, sur ce qui se passait ce soir?
Moi, c'était sur Facebook, tout simplement.
Donc sur la page Utopia 56?
Oui, voilà. Et puis, j'ai eu pas mal d'amis qui ont partagé des événements, des choses comme ça. Et voilà, ça m'a permis de connaître l'asso et toute son activité.
Cette situation n'est pas sans nous rappeler les propos de Danny Cohen, avocat au barreau de Marseille, défenseur des Roms. Nous l'avions rencontré en 2013.
En réalité, moi j'interviens comme avocat dans des procédures où les Roms sont convoqués devant la justice. Il s'agit essentiellement de la justice civile ou de la justice administrative, dans laquelle les propriétaires de locaux ou d'espaces publics ou privés demandent leur expulsion. Mon intervention, c'est jamais en demande, c'est toujours en défense, parce qu'il y aura un propriétaire public ou un propriétaire privé qui va dire il y a monsieur X, Y et Z, madame, qui sont occupants de ce terrain ou de cet appartement ou de cette maison ou de cette friche industrielle et qu'ils n'ont pas le droit d'y être. En plus, c'est dangereux pour leur santé. Et donc, je demande que le juge ordonne de quitter les locaux. Donc, c'est dans un rapport assez classique de propriétaire d'un bien, d'un immeuble, en droit on dit que ça c'est un immeuble, et où les Roms sont installés et dont on demande leur expulsion. Ils disent toujours qu'ils sont très gentils, qu'ils n'ont rien contre les Roms, mais qu'il faut bien qu'on les protège contre eux-mêmes, puisqu'ils sont dans des conditions de saleté importantes, il n'y a pas d'hygiène, et c'est dangereux, il y a des enfants, etc. Donc c'est comme ça. Et ça concerne à la fois des espaces publics, des jardins, des dépendances de la SNCF, enfin il y a différents types de terrains dans lesquels on vient demander leur expulsion. Et les juges, jusqu'à présent, se sont limités à accorder des délais pour partir, mais en général, on fait droit aux demandes des propriétaires publics ou privés. Les arguments qui sont présentés en défense, que je présente pour eux, c'est de dire que, en tant que personnes humaines, les Roms qui ont été exterminés par les nazis, quelque part l'Europe, elle doit prendre en charge les conséquences de tout ce qui s'est passé dans les années précédentes. et que les Roms victimes du racisme extrême sont victimes dans leur pays d'origine de très graves discriminations qui sont reconnues par tout le monde et même qui sont condamnées par les instances internationales qui protègent les droits de l'homme et les instances européennes de protection des droits de l'homme. Au titre de cette protection, on ne peut pas accorder l'expulsion comme ça. Qu'on a une dette, ce n'est pas simplement une dette symbolique, qu'on a une dette juridique, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont garantis à toute personne, qu'elle soit rome ou pas, et notamment le droit à l'abri. Il y a une charte sociale internationale où la société, où tous les pays qui ont signé la charte, ont une obligation à l'égard des personnes. Et ils ont notamment une obligation au droit à l'abri. Donc si je suis dans la rue parce que je n'ai pas de travail ou je n'ai pas d'argent et je dors dans la rue parce que c'est comme ça, je suis démuni, personne ne veut me louer, etc., la société doit me garantir l'abri. Et donc j'essaye de faire passer dans les défenses que je présente ce droit à l'abri qui est un droit théorique inscrit dans la charte sociale en un droit effectif. Et l'effectivité du droit, c'est quand le juge dit « ben, ce monsieur a raison ». Alors, les tribunaux ont partiellement entendu ce point de vue. Ils l'entendent partiellement en accordant des délais de plus en plus grands et en constatant que quand ils ordonnent l'expulsion d'un endroit A, on revient quelques mois plus tard demander l'expulsion de l'endroit B. Donc, la pauvreté des Roms se promène d'un endroit à un autre dans le même territoire géographique. Donc l'itinérance est en boucle en fait. Les pouvoirs publics, il y a l'État, c'est le préfet et les services de la préfecture, mais il y a aussi les communes, les communautés de communes, le département qui ont des terrains et personne ne veut s'en occuper. Donc ce que met en évidence cette situation, c'est le fait que la difficulté que pose l'arrivée des Roms sur un territoire n'est pas gérée, que les pouvoirs publics s'en occupent pas. Les pouvoirs publics, dans la version antérieure à l'élection présidentielle de François Hollande, ils étaient pour la méthode forte contre eux. Et les nouveaux pouvoirs publics, ils ont annoncé par une circulaire du mois d'août 2012 la volonté d'essayer de commencer à traiter. Il y a peu de moyens qui sont mis à disposition pour traiter. Et on continue à dire qu'il faut détruire les camps illicites. Et on le fait, ou on essaye de le faire. Parce que la destruction du camp illicite, c'est un peu kafkaïen, parce que une fois qu'on en a détruit un, les populations s'éparpillent et reconstituent ailleurs un autre camp illicite. Alors jusqu'à quand on va rester dans cette situation? Personne ne le sait. Alors là où ça devient très compliqué, c'est que les pouvoirs publics, évidemment, dans une démocratie ou prétendue telle, ça résulte d'une élection, et les électeurs, c'est les populations qui habitent autour, et il y a des réactions de rejet réelles. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, ça existe. Donc le problème est compliqué à traiter. Et cette complexité nécessite une espèce d'intervention dans plusieurs secteurs. Il faut des moyens, il n'y a que l'État qui peut faire ça en fait. Et l'État ne le fait pas, ou n'a pas envie de le faire, ou ne le fait pas assez. Il faut mettre en œuvre le droit fondamental, le droit à l'abri. Les gens, ils n'ont pas à dormir en France, certes il y a une crise économique, mais en 2013 ou 2014, on ne laisse pas les gens dans la rue, on ne laisse pas des enfants dans la rue. Donc la France, elle a signé une charte sociale européenne qui dit que toute personne a droit à l'abri. Alors monsieur le préfet, monsieur le gouvernement, mettez en place ce droit à l'abri. Les associatifs, ils sont en contact direct avec eux, donc quand il leur arrive des trucs, des convocations au tribunal, ils leur donnent, et on travaille sur la base de ce document avec eux, et on essaye de construire des défenses là, dans cet échange entre les Roms, les associatifs et l'avocat. À trois ou souvent qu'avec les associatifs, mais je demande toujours de venir. Je leur demande toujours d'être là, parce que c'est important qu'ils participent à cet exercice. Parce que la justice, c'est aussi un exercice démocratique. Le juge en France, dans le système français, il est le garant des libertés. Et donc les procès, ça a un aspect symbolique important. Donc il faut être présent, il faut poser le problème. Alors peut-être que pour le moment, la réponse, elle est négative, mais je désespère pas qu'on arrive un jour à avoir des jurisprudences dissidentes. Il y en a quelques-unes. Il y a le tribunal, à force de d'insister, d'expliquer, de temps en temps, il nous donne des petites satisfactions. Il va considérer que l'urgence pour ordonner l'expulsion n'est pas remplie. Mais si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on est souvent en défense pour des groupes importants. Et les groupes importants, les juges, ils savent pas faire, quoi. S'il y a un individu qui dit qu'il est à la rue, il va pouvoir faire des... Mais quelque part, le fait que ça concerne des groupes de population important est un obstacle au succès de la demande judiciaire. C'est-à-dire le clochard tout seul, il pourrait demander l'abri, mais s'il y a 10 Roms ou 15 Roms, on va dire tout de suite c'est pas possible, donc on ne peut pas l'accorder. Parce qu'il faut des moyens. Et s'il n'y a pas des moyens, il faut des moyens, il faut pas se cacher. C'est pas simple, mais ça interpelle violemment. Mais la détresse est violente, hein, et l'ordre d'état c'est violent. Il y a des endroits autour de l'île là où ça a marché un petit peu. Ça commence à marcher. Mais passer de la rue à un logement, ça peut pas se faire comme ça. Il y a des étapes. Il faut la scolarisation, il faut l'hygiène, il faut un tas de trucs. Ça s'apprend, ça. Et on peut poser des limites. Le maire de Gardanne, il a fait quelque chose de très bien, très courageux, posant des conditions pour qu'on les laisse à un endroit qui était relative à l'hygiène, à la scolarité, à un début de socialisation Gardanne. Et ça, c'est accepté, parce qu'il y a un contrat, il y a une démarche. Je vous aide et il y a une contrepartie. Et ça, c'est possible. Et des endroits où ça se fait, ça fonctionne. C'est le début, c'est ça qu'il faut faire. Il faut le généraliser, mais évidemment, on est loin du compte. Hein. Comme ils me voient, j'en sais rien, je sais pas. Ils me rendent avec des associations, je sais pas, et j'imagine qu'ils me prennent dans le système que je suis. Il y a un de rare qui nous aide ou je sais pas quoi, donc ouais. Voilà. Il y a une petite minorité de Français qui sont sympas, qui nous aident. Il en fait partie. À la façon dont ils me disent bonjour, ou quand ils arrivent au tribunal, ou ils me remercient à la fin de l'audience.
Et comment vous êtes venu en fait ?
À faire ses défenses ? Voilà. Ben ça, c'est un parcours personnel d'exercice professionnel dans la défense des gens qui sont en général dans la difficulté. Donc je fais plutôt ces défenses depuis que je suis avocat, mais c'est le métier d'avocat m'a permis d'avoir un exercice professionnel en accord avec mes idées. Et donc c'est pour ça que je le fais. Donc il y a un lien, si vous voulez, il y a un lien entre ce que j'ai dans la tête et ce que je fais comme dans mon métier. Et puis il faut le faire, quoi. C'est tout. Et puis c'est l'honneur du barreau, de défendre l'honneur du barreau. Donc je participe à cette tradition historique. Il y a rien, c'est pas un exploit. Ça. On trouve toujours dans un barreau un avocat qui va accepter ce genre de choses.
Est-ce que vous êtes identifié comme celui qui...
Oui. Donc en fait, il se trompe pas. C'est-à-dire sur une grande ville, surtout Marseille, une grande ville, il y a beaucoup d'avocats. Les gens qui sont en capacité de faire ce genre de choses, toute la ville les connaît. Ou tous les milieux militants ou associatifs les connaissent. Donc c'est vers eux qu'on va se tourner. Mmh. Et moi, je suis un parmi cette équipe-là, ou ces équipes. Une petite minorité, mais qui existe vraiment.
Et est-ce que vous vous souvenez d'une situation où, pour le coup, vous avez dit que vous aviez réussi quelque chose ?
Ben ouais, là, récemment, on a obtenu du tribunal qui estime. Le tribunal administratif, jusqu'à présent, était très réticent à nos argumentaires. Et, on a plusieurs fois, il a rejeté en bloc tous nos arguments. Et là, une audience, il n'y a pas très longtemps, il a considéré que la condition d'urgence qui permettait de prononcer l'expulsion n'était pas remplie pour un groupe qui occupait un terrain, une espèce de jardin public. Il a dit... Donc il ne m'a pas suivi sur les Roms en tome droit qui peut s'opposer au droit du propriétaire. Il a dit que dans ce cas-là, en motivant pourquoi... L'urgence qui lui permettait d'ordonner la mesure qu'il lui demandait n'était pas remplie. Donc on est entendu, un tout petit peu, mais on est entendu. C'est un chemin lent. Hein.
Est-ce que ça change quelque chose de se dire les Roms sont citoyens européens ?
Et ça change, oui, parce que l'Union européenne, ce n'est pas un simple marché. Ça ne fonctionne aujourd'hui où tout le monde se rend compte que ce n'est qu'un marché. Mais l'Union européenne, c'est censé ne pas être qu'un marché, parce qu'il y a des textes de protection des droits fondamentaux qui existent et qui peuvent être en conflit avec les droits du marché. Et donc toute la technique juridique et des tribunaux, ils sont censés se saisir des droits fondamentaux et de la logique économique en cours et de faire la confrontation et de décider dans quel cas on va faire prévaloir le droit fondamental. Moi, j'ai tendance à penser que le droit fondamental, il a une valeur juridique supérieure au droit de propriété, par exemple, et parce que c'est un droit des hommes, un droit de l'homme ou un droit individuel de l'homme, et l'autre, c'est bon, dans la hiérarchie des droits, il est juste un peu en dessous. Donc il faut faire ce travail-là. Mais ça, c'est du travail de juridique classique. Hein, les avocats, ils font ça toute la journée, quoi. Ou en tout cas, ils essayent de le faire. J'ai envie de dire que à l'origine de tout ça, il y a de la compassion et du bon sentiment, mais et qu'il faut qu'on, comme c'est compliqué, l'irruption dans un pays comme la France de bidonville qui avait disparu des années 60, il n'y en avait plus, hein, fin des années 60, et donc des gens extrêmes dans une grande pauvreté avec des modes de vie un peu itinérants, ils demandent rien à personne, ils vivent de petites ferrailles, de choses comme ça. Ça fait qu'ils sont rejetés en bloc par les gens qui sont autour. Et il faut tenir compte de ça. On ne peut pas réussir notre travail si on n'est pas en capacité de convaincre les gens qui sont juste à côté, qui sont dans une maison, qu'il faut qu'ils soient plus tolérants. En tout cas, il faut que la responsabilité de l'État, c'est de d'empêcher la confrontation. Et alors qu'ici, vous savez qu'il y a eu samedi dernier une manifestation des voisins de Fontainebleau où habite un petit groupe de Roms.
Oui, c'est la cité des Lions, je crois.
Ouais. Donc il faut éviter ça. Et ça, c'est la responsabilité de l'État, mais de nous aussi, parce que l'État, c'est nous, en fait. Donc il faut les obliger à. Et ça rapporte rien en termes électoraux, par exemple. Donc évidemment, compliqué. Donc c'est complexe. Ce qu'on dit, nous, ce que je fais, moi, ce que font les associatifs, c'est complexe, parce qu'ils sont dans une extrême dénuement. Donc s'occuper des gens très démunis, c'est très difficile. Et deuxièmement, ils sont rejetés. Donc on a l'opposition de la population autour qui rejette et qu'il faut empêcher ce rejet. Donc en fait, il faut que l'État traite le problème. Le rejet, il serait moins important si l'État gérait. L'État ne gère pas. Il espère bien que, à force d'être dans les rues à Marseille, ils ne vont pas retourner chez eux en Roumanie, ou en Hongrie, ou ailleurs. Hein.
Quelles actions pourraient être faites, la signation des voisins, si on peut dire?
Les voisins, il faudrait discuter avec eux. Et il faut que la situation des Roms change. Il ne faut pas que ce soit des camps pas organisés, machin. Il faut avoir, au lieu d'avoir la conception, ils n'ont pas de papier, ils ne travaillent pas, dire on a ces personnes, on va s'en occuper, on va faire en sorte que les enfants ils aillent à l'école, qu'il y ait de la poubelle qui vienne tous les jours pour ramasser les ordures qui sont produites par une collectivité un peu importante. Il faut gérer. Déjà, s'il gérait, ça serait bien. Donc il faut des moyens, ça coûte des sous aussi. Et on est dans un pays en crise, donc on va dire pourquoi les Roms et pas les autres.
Je pense que ça, c'est l'argument qui doit revenir souvent aussi dans les voisins.
Ouais, sans doute. Mais là, ceux-là, ils ont été corrects. Hein. Moi, ce que j'ai entendu, ils ont été... Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc ils disent en gros la même chose que nous, là. Donc on se retrouve là-dessus. Mais alors après, c'est qu'il y en a qui doivent dire, mais ils les prennent, ils les ramènent chez eux, ou ils les prennent, on les amène à l'école. Moi, je suis pour qu'on les amène à l'école, qu'on leur donne on essaye de leur donner des conditions de vie un peu meilleures. La France est le cinquième pays, alors certes en crise, mais c'est quand même la cinquième puissance économique du monde. Hein. Donc n'oublions pas ça. Dans la crise d'aujourd'hui, sur Marseille, il y a 3000 personnes à peu près qui sont concernées. Dans cette situation, on doit pouvoir... trouver des solutions sur Marseille et la région, c'est-à-dire que si tout le monde s'y mettait, toutes les communes, tous le département, l'État, on doit trouver des solutions.
Et ce serait quoi, par exemple, réquisitionner du bâti vide ou...
Réquisitionner, mettre des assistantes sociales, enfin mettre un peu de moyens. Pas beaucoup, hein, c'est des petits moyens, mais c'est possible. Il faut changer la perception, il faut changer le regard. Oui, je pense, hein, à des situations qu'on a connues en France encore à une période récente, hein. Moi, les bidonvilles, j'en ai connu quand j'étais étudiant. En arrivant à Aix-en-Provence, j'habitais Marseille, on prenait le bus, on arrivait à Aix, on débarquait dans un bidonville occupé par des immigrés d'Afrique du Nord et qui se trouvait là où il y a la ZAC maintenant. Là. Et je crois que la première année de fac, à la fin de l'année, le bidonville avait été rasé et les gens avaient été relogés dans des HLM, etc. Donc c'est possible.
Place.
Du Sanitas à Marseille, venu d'Europe de l'Est ou d'Afrique, la misère se déplace dans l'espace et dans le temps. Elle se disperse et se rassemble, elle croît, et de quoi sera-t-elle le terreau ? Le Dahu vous dit à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts. Hey, do.